Alors, c'est un exercice inédit pour moi, le cours d'agrég séminaire de recherche. Jusqu'à présent, je n'avais pas encore fait ça, mais enfin, on va essayer. Et pour doubler la difficulté, en croisant deux histoires qui n'ont quand même pas grand-chose à voir entre elles, à savoir celle du Royaume de France et des pays de la couronne de Bohême. Bon. Alors, nous avons affaire avec la France et le Royaume de Bohême à deux histoires qui se croisent. Et qui s'ignore hein, très, très largement, il faut être clair. Et là, vous avez le décalage entre les affrontements religieux tels qu'ils existent, disons, dans l'Europe du Nord-Ouest, hein, et c'est un même ensemble qui va être France, Pays-Bas, à un moindre degré Angleterre, et puis une autre problématique qui est celle du Saint-Empire et de l'Europe centrale. Ce n'est pas du tout la même chronologie. Pour résumer, et avoir ça bien en tête. Pour la France et régions circonvoisines, c'est évidemment la deuxième moitié du XVIe siècle, hein, à partir de la mort d'Henri II, et jusqu'à 1598, l'édit de Nantes, mais en fait, le dernier épisode, avec ce qu'on appelle les guerres de Rohan, dans le Midi surtout, mais aussi du côté de La Rochelle, nous conduit quand même jusqu'en 1629. Donc là, c'est vraiment la fin des guerres de religion en France, avec la paix d'Alais et le démantèlement de l'organisation militaire huguenote. En Europe centrale, la chronologie est complètement différente, elle ne se recouvre que très peu. Celle que je viens d'évoquer, puisque les affrontements religieux, en particulier dans le cas de la Bohême, ne commencent qu'avec le XVIIe siècle. Et le point de départ, c'est l'épisode de la phase violente, hein, même si c'est en gestation depuis quelque temps, c'est la fameuse défenestration de Prague du 23 mai 1618. Et à ce moment-là, on entre dans 30 ans exactement d'affrontements. Et ce qui devient la guerre générale, la guerre de 30 ans, qui commence à Prague en 1618, pour un peu s'arrête à Prague, puisque le dernier véritable épisode guerrier se passe à Prague, à l'été 1648. C'est le raid suédois sur la ville au moment où les négociateurs achèvent de discuter à Münster et à Osnabrück. Donc vous voyez, du point de vue chronologique, on n'est pas sur la même séquence. Du point de vue politique, il n'y a évidemment pas grand-chose de comparable entre le royaume de France compact, qui pour l'époque peut être dit centralisé, malgré tous les éléments centrifuges que nous pouvons y repérer, et puis la monarchie autrichienne, comme on peut dire, à partir de 1526, c'est-à-dire un ensemble de territoires en union personnelle avec un monarque habsbourg. Depuis 1526 pour la Bohême, 1527 pour la Hongrie. Donc, c'est-à-dire un ensemble de territoires qui juxtapose les Autriches, parce qu'à l'époque il y en a plusieurs, les pays de la couronne de Bohême, qui m'intéressent aujourd'hui, mais aussi une partie des pays de la couronne de Hongrie-Croatie, du moins celle qui n'a pas été mangée par les Turcs. Donc, vous le voyez, on n'est pas du tout dans le même type de construction politique. Et lorsqu'on va parler des pays de la couronne de Bohême, c'est d'une partie de cette monarchie autrichienne, seulement une partie, pas la totalité. Et les pays de la couronne de Bohême, vous avez un territoire qui est fait de plusieurs éléments. Hein, la République tchèque d'aujourd'hui, pour vous situer les choses, c'est cette partie-là, hein, qu'on n'ose plus appeler Bohême-Moravie depuis que la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quand même la réalité territoriale. À l'époque, au territoire de la République tchèque aujourd'hui, il faut ajouter un double territoire, ce qu'on appelle les Lusaces, en français, L majuscule U-S-C-A-C-E-S au pluriel, c'est-à-dire la région de Bautzen et de Görlitz, qui se trouve aujourd'hui en République fédérale allemande. Et puis surtout, vous avez cet immense territoire qu'on oublie complètement d'associer à l'histoire de la Bohême, c'est la Silésie, la haute vallée de l'Oder, qui se trouve aujourd'hui dans la République de Pologne, mais qui est liée à la Bohême pendant des siècles, jusqu'en 1740, au moment où Frédéric II de Prusse s'en empare, et ça devient prussien, puis allemand, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà les quatre territoires qui forment les pays de la couronne de Bohême ou couronne de Saint-Venceslas. Et c'est un des éléments de la monarchie Habsbourg. C'est aussi un des éléments du Saint-Empire romain germanique, puisque la limite du Saint-Empire romain germanique, vous voyez, elle va séparer les pays de la couronne de Bohême de la Hongrie ici et de la Pologne au nord-ouest. La question qui se posait pour vous parler des affrontements religieux et de leurs conséquences pour les sociétés rurales, la difficulté, c'était de vous trouver, non pas des choses comparables, mais en tout cas des études suffisamment précises faisant aux campagnes une place plus fouillée que dans des généralités qui sont faciles à trouver. Et il fallait, d'un côté que de l'autre, je puisse vous donner, il semblait que c'était important pour asseoir le reste du propos, des études de cas, vous voyez, des monographies un peu plus fouillées, où sur une zone donnée, quelle que soit son ampleur, on puisse croiser plusieurs types de données. Ça n'a pas été très simple. Alors, pour la France, j'ai fait le choix d'une zone qui est évidemment emblématique des affrontements religieux, et pas seulement dans la période qui s'arrête en 1650, c'est la région des Cévennes, où là, on a la chance de disposer d'assez nombreux travaux d'histoire religieuse, mais pas seulement, d'histoire sociale. Je pense aux travaux de Patrick Cabanel, par exemple, pour une période plus récente. Mais ça permet d'avoir quand même une idée un peu plus claire des choses. Il y a bien entendu d'autres zones dans lesquelles on va voir se mettre en place un protestantisme rural très enraciné. Il y a des exemples normands, même s'ils sont assez dispersés, hein, entre le pays de Caux ou si on va vers l'Orne, on va trouver un certain nombre d'endroits où localement c'est une réalité très importante. On pourrait regarder aussi le Poitou, ou du côté du Dauphiné, hein, dans ce qu'on a appelé le fameux croissant fertile du protestantisme français, en tout cas, vous voyez, qui va de La Rochelle, Montauban, la plaine du Bas-Languedoc, les Cévennes, et puis rejoint le Dauphiné. La difficulté, c'est que pour la plupart de ces zones, on a des éléments d'histoire religieuse, mais on n'a pas nécessairement des monographies d'histoire agraire qui permettent d'emboîter les différents éléments. Il y a un endroit qui permettait d'avoir cette concentration de données, ce sont justement les Cévennes, et ça m'a permis de présenter l'endroit, non seulement parce que une partie des Cévennes devient protestante et devient, on le sait avec tous les événements postérieurs de la guerre des Camisards, etc., un endroit particulièrement emblématique du protestantisme méridional, mais aussi, et pour étudier les affrontements religieux, ça me paraissait très important, on dispose depuis 2002 du travail extrêmement intéressant de Robert Sauzet, qui lui a étudié la minorité catholique dans les Cévennes, ce qui permet d'avoir les deux éléments, et ça, c'est évidemment un concours de chance historiographique extrêmement utile. Et donc c'est en emboîtant ces différents éléments que je vous ai fait cette petite note de synthèse, voyez, monographique sur les Cévennes. Du côté de la Bohême, c'était encore plus compliqué parce que les histoires sur la recatholicisation, comme je traduis le mot recatholisatse dans le vocabulaire historiographique tchèque ou la contre-réforme, si vous préférez, sont extrêmement nombreuses, mais presque toujours, jusqu'à une date récente, sont faites à partir des archives ou de l'État ou de l'administration centrale ecclésiastique, c'est-à-dire les très riches archives de l'archevêché de Prague, sur lesquelles tout le monde s'est appuyé. Seulement après, quand vous voulez savoir sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les décisions du Seigneur devenu catholique sont vraiment appliquées ? Est-ce que les missions jésuites servent réellement à quelque chose ? On ne sait plus très bien. Et par chance, j'ai pu utiliser les travaux d'une archiviste, travaux des 10 dernières années, Madame Riantova, qui a étudié tout particulièrement une seigneurie tout à fait significative au sud de Prague, bordée par la vallée de la Voltava, hein, la fameuse Moldau, vous avez ici la seigneurie de Wysoki-Chlumetz, qui est une terre appartenant à la grande famille qui existe toujours aujourd'hui, des Lobkowitz. Et on a l'avantage sur un territoire quand même bien circonscrit, avec de riches archives seigneuriales, et c'est par le biais des archives familiales et seigneuriales qu'on peut avoir à ce moment-là des données nouvelles qui permettent de cerner dans le cadre d'une seigneurie ce qui s'est réellement passé ou ce qui ne s'est pas produit dans cet espace. Alors, du côté de la France, vous voyez, je prends une région qui est quand même relativement étendue, à savoir les Hautes-Vallées Cévenoles, pour présenter les affrontements. Et là, on a vraiment des phénomènes de guerre civile et religieuse, à répétition. Dans le cas de la Bohême, je choisis un autre espace, c'est celui du grand domaine, de la seigneurie, c'est-à-dire qu'on est dans un type d'organisation sociale et économique largement différent, dans lequel ce qui compte, c'est l'espèce de biotope, dans lequel se passe la vie des habitants des campagnes, c'est la seigneurie, au sens vraiment le grand domaine. Wysoki-Chlumetz, on peut envisager quelque chose de 200 à 250 km². C'est une grande seigneurie, mais c'est parmi la catégorie des grandes seigneuries, c'est une petite seigneurie. Pour vous donner une idée, l'immense seigneurie qui est celle de Krumlov dans le sud de la Bohême, qui est tour à tour possession des Rojumberg, puis des Eggenberg, puis des Schwarzenberg, jusqu'à 1948, cette seigneurie, c'était plutôt 400 km². Le mot seigneurie n'a rien à voir avec ce que nous pouvons, en tout cas en termes de superficie, connaître chez nous. Et une seigneurie en Europe centrale, pas seulement en Bohême, plus généralement en Europe centrale, c'est un monde complètement autonome sur lequel l'autorité royale n'a qu'une prise extrêmement réduite jusque peu à peu à partir de la fin du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle. Et puis, pensez une chose, le système seigneurial en Europe centrale, il disparaît en 1848. Bon. Donc, vous voyez, autre chronologie, autre dimension. Alors là, ça n'est pas la guerre civile, mais ce qu'on aura, problématique propre à toute la monarchie autrichienne, ce sera la tentative, finalement couronnée de succès, mais dans une beaucoup plus longue durée que celle que nous pouvons voir aujourd'hui, tentative qui est celle de la monarchie Habsbourg et des élites catholiques, ecclésiastiques ou laïques, pour imposer le catholicisme à des populations ici rurales qui ne le sont plus depuis une date variable entre le XVe siècle, époque des Garussites en Bohême, et le XVIe siècle. C'est-à-dire que il faut se... là, c'est un autre type de problématique qui va être celui de comment imposer, voyez, une religion différente à des populations qui en avaient pris congé depuis une durée plus ou moins longue. Pas toujours jusqu'au XVe siècle, parfois le catholicisme a disparu faute d'encadrement ecclésiastique, sans qu'il y ait, voyez, une date très nette au cours du XVIe siècle. Ben, à un moment, il n'y a plus de curé qui est venu. À la place est arrivé un curé utraquiste, voyez, ceux qui se font référence à Jean Hus, ou bien un pasteur protestant. Et puis, c'est comme ça que ça a changé. Sans qu'il y ait eu quelque chose qui soit aussi marqué que, par exemple, quand un village des Cévennes passe à la Réforme. Alors, à partir de ces deux études de cas, on peut se poser un certain nombre de questions. La première question, c'est quand même se demander, et sans doute à Caen on l'a fait, mais dans d'autres universités, je n'en ai absolument pas entendu parler, c'était quelle place les ruraux occupaient dans les affrontements religieux de la période considérée, parce que j'ai entendu parler de choses parfois théologiquement très élaborées, de choses très urbaines où on détaille les violences sous toutes leurs formes. Mais qu'est-ce qu'il advient dans les affrontements religieux de ces 80 à 90% sur les endroits de la population, assez curieusement, a été pas une préoccupation majeure d'une partie des collègues. Sans doute faut-il rappeler un constat général, c'est que les ruraux, soit l'énorme masse de la population, n'ont pas immédiatement, je dis bien immédiatement, représenté en France comme en Bohême un enjeu important pour les réformes religieuses affrontées. Ce qui explique sans doute le désintérêt d'une partie de mes collègues. J'ajoute que ce n'est pas la partie du programme la plus facile à traiter, ce qui peut expliquer aussi que ce n'est pas créer des quantités de vocations. Bon, mais revenons à l'époque. Se gagner le roi ou le conserver dans la religion, ou appeler ça la confession, comme on le fait souvent aujourd'hui, qui est la vôtre, le roi et les élites du pays, a été évidemment une préoccupation beaucoup plus urgente, car on se disait que c'est ça qui allait permettre ou bien d'entraîner, voyez, le basculement religieux de tout le monde, ou d'empêcher l'effondrement, ça dépend de quel côté on se place. Donc, contrôler la cour, la capitale, le haut clergé ou la haute noblesse, évidemment, apparaît plus immédiatement utile que de s'occuper des villageois. Bon, puisqu'on se tourne vers les acteurs les plus visibles, les acteurs majeurs. Bon. Je rappelle cette différence entre les deux. En France, on a un roi qui reste catholique, sauf l'épisode de critique entre 1589 et 1593. À la tête d'un royaume qui est demeuré massivement catholique, même à l'apogée de la réforme calvinienne, vers 1570. Bon. En Bohême, on a un monarque électif, Habsbourg, qui est resté catholique, mais qui règne sur des populations qui, elles, ne le sont que marginalement. Ces populations, il tâche, à partir des années 1620, de les ramener à la religion romaine de manière autoritaire et contraignante. Et ça, ça va prendre un certain temps. Alors, et les ruraux, dans tout cela, ils peuvent apparaître facilement comme des figurants, comme peut-être les spectateurs d'un drame complexe où les rôles importants sont tenus par les élites et globalement par les citadins. Si on cherche parmi les acteurs majeurs des ruraux ou des enfants de paysans, on ne va pas en trouver des quantité, on a quand même, dans le cas de la France, Vincent de Paul et Adrien Bourdoise, qui, eux, peuvent faire état d'indiscutables origines paysannes. Dans le cas de la Bohème, on va trouver un personnage, évidemment totalement inconnu en France, mais qui a eu son importance, un certain Yann Lohel, L majuscule O-H-E-L. Lui a commencé, pur produit rural, il commence par garçon d'écurie dans un monastère de Prémontré, puis ensuite il va devenir religieux, puis abbé. Alors ça, c'est quelque chose qui ne doit pas vous surprendre. En Europe centrale, on peut être d'origine paysanne et devenir abbé d'un grand monastère et abbé mitré et siéger à la diète, donc dans l'assemblée, vous voyez, administrative territoriale. Et d'abbé de son monastère, il devient ensuite abbé du grand monastère prémontré d'Ostrahov à Prague et de là archevêque de Prague. Donc là, on a un acteur majeur. Dans le cas de l'histoire de la Bohème, c'est lui qui fait raser un des deux temples protestants en 1612. Et la destruction de ces temples protestants est à l'origine du fameux épisode de la défenestration. Alors là, pour le coup, si on cherche un fils de paysan qui a joué un rôle important, on en trouve un. Bon. Alors, on peut se demander si les affrontements religieux ne sont pas finalement imposés aux campagnes, par les villes ou en tout cas par les élites. Il y a un problème de source qui souvent ne permet pas d'aller aussi loin qu'on le souhaiterait dans les monographies, mais aussi un problème de saisie, de pénétration de ces sociétés rurales par les changements religieux qui évidemment touchent plus facilement les villes et les milieux alphabétisés que les campagnes. Et on va constater qu'effectivement, les prédicants protestants viennent bien souvent de la ville, tout comme les missionnaires ou les, entre guillemets, nouveaux prêtres de la réforme catholique. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les ruraux ne représenteraient qu'une masse amorphe et retardatrice, voyez, hostile à tout changement. L'exemple des Cévennes est là pour vous montrer comment une région presque entière, sans grande ville, a pu s'approprier une nouvelle forme de christianisme en un temps quand même tout à fait réduit, en gros une génération. Vous voyez, 25-30 ans, ça suffit pour que ça bascule. Encore faut-il que les vecteurs de la réforme n'ont pas été les paysans. Ça passe d'abord beaucoup par des artisans. Et on a dit, avec la formule fait choc, mais elle est quand même un peu exagérée, en tout cas elle ne fonctionne pas partout, que la laine soit une telle hérésie. Voyez. Bon, mais vous verrez qu'il y a quand même des localités juste au bord de la Draille, où là, en termes de laine, on est quand même bien placé pour être informé, où ça ne marche pas. Ils sont restés catholiques. Pourquoi ? On ne sait pas. La réforme, et mais ça, en Normandie, on pourra le trouver, va passer par des ecclésiastiques, des petits nobles, des artisans, là également. Seulement, ça nous conduit vers une réalité importante, qui est qu'en France comme en Bohême, les campagnes, même si elles nous semblent reculées, ne sont pas encloses, ne sont pas enfermées, ne sont pas inaccessibles à ce qui peut changer dans le domaine religieux. Et on peut quand même savoir des choses, on peut se faire une idée et parfois prendre parti, abjurer ou en tout cas adopter une attitude de choix. S'il est sans doute un peu rapide de considérer que le refus du protestantisme, qui est quand même un phénomène majoritaire à l'échelle des campagnes du Royaume de France, doivent être rapportés tout simplement au poids écrasant de la tradition ou à une christianisation qu'on a qualifiée de superficielle, avec des pratiques qu'on a souvent dites entre guillemets magiques. C'est un terme que vous trouvez beaucoup dans l'historiographie des années 70. Il me semble plus fécond de se demander en quoi les nouvelles prédications, celle des protestants au XVIe siècle, mais parfois aussi celle de certains curés de la réforme catholique un siècle plus tard, ont pu apparaître comme incompatibles avec des expressions de la foi et de la communauté auxquelles on tenait profondément. Et là, on a certainement quelque chose qui mérite d'être pris en compte. C'est introduire en même temps l'idée que les ruraux pouvaient être au moins partiellement maîtres de leur destin religieux, être capables d'assumer des choix qui n'étaient pas nécessairement les mêmes que ceux de leur seigneur ou de leur pasteur. Et vous verrez l'exemple bohème que je vous ai développé montre comment un personnage aussi haut placé que le grand chancelier de Bohême, qui est un Lobkowitz, un catholique très zélé, ne parvient pas, en tout cas pendant des décennies, ses enfants ou petits-enfants qui y arriveront, à imposer le catholicisme à des dépendants qui, eux, restent utraquistes ou luthériens. Il faut quand même noter que si la seigneurie n'a pas permis nécessairement à son propriétaire d'imposer facilement ses volontés, inversement, elle a pu offrir, au moins temporairement, un milieu protecteur pour une croyance minoritaire ou en difficulté. Et c'est le sens en France de ce qu'on appelle, à partir de l'édit de pacification d'Amboise en 1563, le culte de fief, qui, surtout à partir des années 1570, quand le calvinisme est extirpé d'un certain nombre de grandes villes, surtout du nord de la France, joue un rôle déterminant dans des zones rurales dans le nord de la France et puis aussi dans la France méridionale pour assurer la survie d'une religion à ce moment-là sur la défensive. Si vous regardez du côté de la Bohême, on se rend compte qu'au cours des années 1620, des seigneurs qui ne sont pas encore redevenus catholiques, ou qui ne veulent pas du tout le redevenir, mais qui sont encore là, peuvent protéger sur leurs terres, où ils sont à peu près tout puissants, des pasteurs protestants. Et quand je dis protestants, c'est, vous voyez, d'une manière très, très large. Utraquistes, luthériens, unité des frères, tout ce que vous pouvez trouver en Bohême. Et il y a à peu près toute la gamme, jusqu'aux antitrinitaires, vous voyez, de ceux qui refusent l'idée même de la Trinité. Vous pouvez trouver à peu près toutes les modalités de christianisme qui ont existé dans l'Europe du temps. Remarquons enfin que les épisodes les plus violents et les plus sanglants des affrontements religieux ont quand même été, en France et en Bohême, rarement ruraux. Bon. Aussi bien la France dans ces limites de l'époque, que la Bohême n'ont pas été touchées par la guerre des paysans de 1525. Donc là, vous voyez, ça mérite quand même d'être signalé. Mais les grands massacres sont quand même d'abord des phénomènes urbains. Vous voyez, les différentes déclinaisons de la Saint-Barthélemy, comme les sacs ou les prises de ville par les uns ou par les autres. Ce qu'on va trouver, c'est parfois des prises d'armes. Alors, prise d'armes avec un seigneur de telle ou telle religion. Bon, dans le cas des parties catholiques des Cévennes, en 1567-68, on a dans les villages restés catholiques des opérations militaires qui unissent villageois et seigneurs contre les villages voisins protestants. Ça n'a pas bien fini d'ailleurs pour les catholiques cévenols. On va trouver dans une toute autre partie de la France, je pense au bocage vitréen, des prises d'armes à l'époque de la Ligue. Et Vitré est une ville qui compte pour le protestantisme dans cette zone-là. Mais vous aurez aussi des affrontements entre villages catholiques ligueurs et villages catholiques royalistes qui se passent entre les gens du bocage vitréen et ceux plus proches de Rennes. Il n'est pas toujours aisé, évidemment, de démêler les motivations religieuses dans des autres formes de causalité dans ces soulèvements ruraux, vous le savez bien. Mais ces motivations religieuses, elles sont bien présentes dans un certain nombre de révoltes paysannes contre la recatholicisation qu'on va trouver en Bohême et en Moravie dans les années 1620. Où il y a l'élément religieux, il peut y avoir aussi les éléments sociaux contre le Seigneur, avec bien souvent quelque chose qu'on va trouver un peu partout, ça va être la volonté de chasser les soldats. Et ça, bon, ça c'est, si j'ose dire, œcuménique. Alors, deuxième question, pourquoi les fréquentes résistances rurales aux changements religieux ? Alors là, la question est importante, on ne peut pas y répondre exactement de la même manière en France et en Bohême. Dans le cas de la France, on est bien obligé de partir d'un constat, que de manière globale, le milieu rural s'est montré largement réfractaire, je dis largement réfractaire, aux réformes protestantes. Celles-ci ont pu prendre en charge, par exemple, les restes des Vaudois en Provence ou dans le Briançonnais. Mais là où il s'est imposé, le calvinisme a été d'abord l'affaire des villes et des bourgs, les paysans étant touchés, l'imprégnation venant dans un second temps, ce qui ne veut pas dire qu'une fois que l'imprégnation a été réalisée, elle ne soit pas extraordinairement réussie, et qu'on restera protestant des villages à des moments où les populations urbaines pourront être repassées au catholicisme. Alors là, on se heurte à un problème d'explication. Pourquoi ? Et là, les historiens sont hors d'état de fournir des réponses vraiment satisfaisantes à la question « Pourquoi ici et pas là ?» Vous voyez, pourquoi un tel endroit évoluer religieusement de telle manière et pas du tout à 10 km de là ? Bon. En revanche, il y a un consensus historiographique actuellement chez les spécialistes d'histoire religieuse sur les raisons du rejet rural majoritaire des prédications réformées. Et si vous prenez, par exemple, la conclusion de la thèse d'Anne Bonzon sur les prêtres et paroisses dans le diocèse de Beauvais, 1535-1650, qui est parue il y a une dizaine d'années, elle pointe les causes de l'échec du protestantisme, échec qui n'est pas d'ailleurs seulement rural, mais dans la région concernée. Et elle montre que très vite, les prédications protestantes s'avèrent incompatibles avec la religion vécue par la grande masse des populations. Et dans cette religion vécue, il faut énumérer l'attachement aux rites liés aux sacrements et aux fêtes, processions, pèlerinages, la dévotion très vive envers la Vierge et les saints, et qui dit culte des saints conduit tout de suite à la question des images, bien entendu. Le goût du spectacle dans les cérémonies religieuses et le souci d'embellir l'église paroissiale, l'attachement au trépassé avec toutes les formes de suffrage, d'intercession pour les morts, les fondations de messe, la croyance du purgatoire. Bon. La proximité également des vivants et des morts, les sépultures dans l'église, le cimetière ouvert, voyez, sur tout le reste du village. Bon. Et également beaucoup d'attentes envers le clergé, un clergé qui y répond plus ou moins bien. Alors, il ne faut pas prendre parfois un certain nombre de textes d'un anticléricalisme violent pour ce qu'on pourrait croire, à savoir « abat les curés ». Ça veut dire qu'on n'est pas content des curés tels qu'ils sont. Mais ça peut dire qu'on est en soi contre les curés. Voyez. Et ça, dans le Beauvaisis, c'est très net. Alors, d'une manière ou d'une autre, ces différents éléments, vous voyez, qui peuvent être très cohérents, d'une religion commune qui est celle de beaucoup de ruraux et de beaucoup de citadins hein, également, et pas seulement une religion dite populaire, le terme est limitatif, hein, que vous allez pouvoir trouver tous les étages de la société. Alors ça, évidemment, les prédications réformées orthodoxes ne sont pas compatibles avec cela. Et ça déclenche des réactions, parfois, de défense extrêmement vives. On le constate dans différentes régions dès 1561, et avec une sorte de vague de fond émanant, vous voyez, des fidèles ordinaires, vague de fond qui se traduisent par des émeutes, des chasses à l'homme anti-calvinistes, et qui peuvent déborder en ville, si vous voulez. Les ruraux qui viennent le jour de la fête, à la procession, etc., il y a un incident, il y a des provocations, etc., et ça dégénère en une énorme émeute où on va courser ceux qui sont avisés d'aller casser la statue ou de faire les singes devant le Saint-Sacrement. Cette question, vous voyez, d'une piété commune qui est attaquée par les prédications calviniennes, vous allez la retrouver parce que elle va être, non pas globalement, mais ponctuellement remise en question, parfois, par les nouvelles exigences du clergé de la réforme catholique. Ce qui pose là aussi toutes sortes de problèmes, et on s'est demandé si, par exemple, dans le Beauvaisis, des détachements religieux, voyez, ultérieurs, n'étaient pas à rattacher justement à un moment où il n'y a plus de connivence, où il y a un certain nombre de choses qui se décrochent entre prêtres et fidèles. Dans le cas de la Bohême, ce qu'on va constater, c'est la grande lenteur du retour au catholicisme des masses rurales. Ce qui nous manque, ce sont bien souvent des études très ponctuelles. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des études, vous voyez, par seigneurie, et celle de Wysoki-Szlumet, c'est vraiment une exception récente, c'est d'avoir des études, vous voyez, par paroisse. Quand on peut avoir des livres de paroisse, quand on peut dater à quel moment on va reconstruire l'église, à quel moment on va baroquiser l'église, vous voyez, l'orner avec des statues, on va, si vous voulez, reconstituer ce que j'appellerais un biotope papiste, qui avait disparu à certains endroits, qui à d'autres endroits, à l'époque utraquiste du site, n'a pas tant disparu que cela. Et là, ça pose tout le problème, vous voyez, du décalage qu'il peut y avoir, je ne dis pas théologique, mais dans le vécu, vous voyez, des villageois, entre ce qu'il y avait avant la recatholicisation et ce qu'on va tâcher de mettre en place ensuite. Et là, il y a tout un champ historique qui mérite d'être exploré pour savoir si on passe vraiment de quelque chose de très protestant dans son vécu à quelque chose de catholique et même de catholique baroque. Il y a des cas, c'est vrai, mais la distance entre les deux n'est pas toujours aussi tranchée, et ça dépend de l'héritage médiéval commun qu'il peut y avoir dans une église utraquiste ou même encore dans une église luthérienne. Voyez, dans les pays germaniques, en Europe centrale, vous allez trouver des statues. Vous allez trouver beaucoup d'éléments. Là où vous aurez une différence, c'est quand vous avez en Bohême ce qu'on appelle l'unité des frères, c'est-à-dire des gens qui ont rompu à la fin du XVe siècle avec l'église utraquiste et qui, au XVIe siècle, deviennent très proches des calvinistes. Vous voyez, leur lieu de culte, c'est complètement dépouillé. C'est une chaire, des bancs, et puis il n'y a rien. Alors évidemment, dans ce cas-là, c'est le grand écart. Vous voyez. C'est réintégrer des gens qui sont habitués à ça dans l'univers qui est celui du catholicisme post-tridentin, c'est pas évident. Et c'est normal que ça prenne pendant très très longtemps. Et cet effort de recatholicisation dans les campagnes, lorsque le Seigneur est catholique, il peut commencer dans les années 1580, très ponctuellement, avec souvent très peu de succès. Même quand le seigneur, dans sa ville seigneuriale, car en Bohême ou en Moravie, vous avez des villes seigneuriales, hein, même quand le seigneur installe des jésuites, vous voyez, qui ouvrent un collège, vont faire des missions, etc., pour le moment, c'est vraiment trop tôt. Dans les campagnes, sauf si vous aviez vraiment déjà des éléments qui étaient restés catholiques depuis le XVe siècle, vous voyez, qui avaient été passés à travers l'utraquisme, puis ensuite les réformes protestantes. Pour avoir vraiment des résultats, il faut attendre la deuxième moitié du XVIIe siècle. Avant, vous voyez, au moment où s'arrête notre période, il ne faut vraiment pas y compter. Ça peut être vrai localement, mais les villes, elles sont redevenues catholiques. À l'époque de la guerre de 30 ans, les campagnes, énormément, presque tout reste à faire à partir de la fin de la période au programme. Le dernier axe dans lequel je voudrais donner quelques éléments, c'est sur la manière dont s'est modifiée la place de l'Église dans les sociétés rurales. Église avec un E majuscule, mais il faudrait commencer déjà par un U minuscule, à savoir le lieu de culte dans le village. Bon, avec tout ce que ça veut dire, hein, comme point de ralliement de la communauté paroissiale, avec sa dimension visuelle, le clocher, sonore, bien évidemment, et la maîtrise des cloches. Ben, ça, c'est pas besoin d'avoir vécu longtemps dans un village pour savoir que c'est quand même une affaire importante. Et la division religieuse de la communauté, elle est immédiatement perceptible quand il y a plusieurs lieux de culte concurrents, comme on dit, église contre église. Alors, ça peut être le signe d'une situation religieuse en train d'évoluer très rapidement. Prenez ces villages du Bas-Languedoc, au milieu du XVIe siècle, les réformés commencent leur culte en privé, dans des maisons, chez eux, puis de manière plus ou moins clandestine. Mais si le seigneur est favorable, ils vont s'enhardir. Ceux de la petite ville voisine vont venir dans les villages autour, et puis le culte aura lieu dans les métairies. Et on se rend compte bien souvent, le bâtiment dont on prend possession, c'est l'école. L'église, on n'ose pas encore. Mais ensuite, à la première occasion, on va prendre possession de l'église. Alors, les réformés de la ville, ils viennent en quasi-procession. Ils n'aimeraient sans doute pas le mot. Mais ils sortent de la ville, ils vont dans les villages autour, et puis ensuite, après le culte, ils reviennent. Et puis, il y a toujours un moment où on va leur fermer les portes de la ville sous le nez. Et ça va être le déclencheur. À partir de là, ils vont tâcher de s'emparer manu militari de la ville et d'en faire une ville calviniste. Et à ce moment-là, vous aurez tous les phénomènes que vous connaissez, d'iconoclasme, de prise de possession violente des églises, etc. Alors ça, c'est dans le cas d'une situation en évolution assez rapide, vous voyez. Ça se joue sur quelques années. Mais dans des localités, par exemple de Bohême ou surtout de Moravie, vous pouvez avoir plusieurs lieux de culte dans le même village. Alors, s'il y a encore des catholiques, ils auront leur église. L'église ancienne, vous voyez, médiévale, disons, sera occupée par les utraquistes, bien souvent, qui ont tendance à devenir de plus ou moins luthériens. Mais vous avez la maison de prière de l'unité des frères. Avec un peu de chance, vous aurez aussi des anabaptistes installés au village si le Seigneur a envie d'avoir des gens sérieux, même s'ils sont hérétiques, mais ils travaillent bien, on est content de les avoir. Et puis, il n'est pas exclu que vous ayez aussi une synagogue, d'ailleurs. Alors là, vous voyez, vous avez vraiment à peu près tout le monde. Alors, l'Église devient évidemment un enjeu dans les affrontements. Et là, pensez à tous les phénomènes d'iconoclasme, de sacrilège, de pillage. Alors ça, c'est parfaitement œcuménique, le pillage. Hein. Les soldats de tous les camps pillent tout. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et éventuellement, de destruction pure et simple de l'Église dans les Cévennes que je vous indiquais tout à l'heure. Dans le diocèse de Nîmes, la thèse de Robert Sauzet a montré que les guerres dites de Rohan, la dernière décennie des guerres de religion, dans les années 1620, ont été absolument dévastatrices. Il n'y a à peu près plus une église catholique en état normal à la fin de la décennie 1620. Alors, vous voyez, au nord-ouest de Nîmes, toute une zone restée catholique, et ce qu'a étudié en particulier Robert Sauzet, c'est parti des Cévennes, avec ici une sorte d'isola catholique. On ne sait pas pourquoi ils sont restés catholiques. Mais en tout cas, ils le sont restés, hein, et viscéralement. Et puis, vous avez la partie occidentale, la plus proche des Causses, qui, eux, sont largement restés catholiques, comme le Gévaudan plus au nord. Au nord du Mont Lozère, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et la thèse de Patrick Cabanel a étudié, justement, les deux éléments jouant sur le Gévaudan et la partie cévenole. Le clergé paroissial et ses revenus, un mot pour terminer. Dans ces questions qui vont nous conduire vers des éléments plus d'histoire économique et que les historiens du religieux ont moins fréquenté. La question évidemment importante, ça va être celle de la dîme. Alors, du côté bohème, là, la bibliographie est extrêmement lacunaire. J'ai très peu de choses, malheureusement, que puisse vous dire du côté de la dîme. Mais on peut signaler, à partir évidemment de la thèse de Leroy Ladurie, dans le cas du second XVIe siècle, l'importance de la quasi-grève des dîmes qui s'est produite en Bas-Languedoc dès 1550, un phénomène de très grande ampleur. Et les motivations sont parfois assez variées, vous voyez, parmi ceux qui s'abstiennent de verser leur dû. Alors, ça peut être l'hostilité des villageois envers le clergé, un clergé dont on n'est pas content, il ne répond pas aux attentes qu'on place en lui, donc on ne va pas payer la dîme. Ça peut être la jalousie de la noblesse envers un clergé, surtout dans le Bas-Languedoc, très bien possessionné, surtout sur le littoral, où vous avez parfois les deux tiers du sol qui appartiennent à quelques grandes abbayes. N'oublions pas non plus les rancœurs fréquentes du clergé paroissial envers les gros décimateurs, c'est pas seulement dans les cahiers de doléances de 1789. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'hostilité à la dîme rejoint les prédications calvinistes, qui évidemment sont facilitées par cela, mais qu'on peut être quelqu'un qui ne paie plus la dîme et rester bon catholique. Comme on peut devenir réformé, de dire la dîme désormais, on doit la verser au pasteur, et puis en fait oublier de la payer. Mais après l'édit de Nantes, il est quand même prévu que les Huguenots sont tenus de payer la dîme au clergé catholique. Et bien entendu que les papistes sont priés de continuer à la verser. On verra d'ailleurs certains Huguenots prendre à ferme les dîmes de telle ou telle grosse abbaye, l'affaire s'avérant tout à fait profitable. Et un dernier mot pour finir, car des revenus du clergé paroissial, on en vient logiquement à poser le problème de la propriété foncière ecclésiastique et de son devenir en temps d'affrontement. Dans le cas de la France, où, vous le savez, la part du sol possédée par le premier ordre varie d'une province à l'autre, hein, environ 10% pour le Hurepoix, d'après Jean Jacquard, et bien davantage pour la plaine languedocienne, bon, on va constater que l'Église est touchée dans ses biens de plusieurs manières. D'abord par les destructions sur toutes leurs formes, abbayes incendiées, fermes mises à sac, champs en friche, vignes abandonnées, forêts dégradées, bon. Ensuite, les impositions royales sur les bénéfices au nom de la lutte contre l'hérésie. Il s'agit de faire payer le premier ordre, ce qu'il fait d'ailleurs. Impositions devenues ordinaires, d'autres extraordinaires, emprunts forcés, vous avez toute la gamme. Et puis surtout, il y a les aliénations de biens d'église. À 7 reprises en France, entre 1563 et 1587, qui portent sur toutes sortes de catégories de biens. Alors, globalement, que ce soit dans les diocèses du Bas-Languedoc ou au sud de Paris, la propriété ecclésiastique, en dépit de ses pertes, n'a pas été entamée significativement. L'effet est varié sur les communautés religieuses. Les plus grosses, les plus florissantes sont passées à travers, ont arrondi leurs biens, ont vendu des biens périphériques. Bon. Celles qui étaient déjà en mauvaise posture, notamment en commande, elles sont ressorties très affaiblies de l'opération. Mais ça reste quand même quelque chose à la marge, vous voyez, qui va priver de quelques pourcents, le 3-4%, semble-t-il, dans le Bas-Languedoc, vous voyez, c'est peu de choses. Dans le sud du bassin parisien, ce n'est pas un bouleversement foncier. Rien à voir avec ce qui se passe en Angleterre ou dans les pays germaniques passés à la réforme, où là, ça va être suppression des monastères. Hein, c'est... Dans les pays de la couronne de Bohême, la grande dépossession du clergé, elle a déjà eu lieu au XVe siècle, à l'époque des Guérucites. Les Guérucites, on imagine, on propose, dans le cas de la Bohème, environ 30 à 40% du sol qui change de main. L'Église et le domaine royal étant les grands perdants, les bénéficiaires étant les nobles, grandes familles, catholiques souvent, et petite noblesse utraquiste. Mais avec la défaite de la rébellion de Bohême contre les Habsbourg en 1620, la question qui se pose, ça va être celle du châtiment des rebelles. châtiment des rebelles, et on entre dans une phase de confiscation foncière qui va concerner au moins 50% du sol. Alors là, vous aurez quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que les coupables peuvent appartenir un peu à la haute noblesse, beaucoup à la petite et moyenne noblesse, celle des chevaliers, et aussi à la bourgeoisie des villes royales. Mais un gros transfert foncier qui va se faire en plusieurs étapes, avec des confiscations totales ou partielles. À qui est-ce que ça profite ? Pas à l'Église, qui ne retrouve pas, au moment où on pourrait s'y attendre, elle retrouve son rôle politique, les prélats siègent à nouveau à la diète, mais ils ne retrouvent pas les biens-fonds perdus au XVe siècle. Les grands bénéficiaires, c'est la haute noblesse. Et la haute noblesse catholique, soit catholique traditionnellement, soit redevenue catholique avant ou juste après la révolte. Et c'est la haute noblesse qui prend en charge le pays, qui va se doter d'un nombre absolument considérable de seigneuries, et elle ne tient pas, un certain nombre de grandes familles tout à fait catholiques, y compris famille d'un des défenestrés de 1618, eux ne sont pas du tout partisans de rendre à l'Église des biens-fonds très importants. Ce qui pose un problème tout à fait majeur pour la mise en œuvre de la reconquête catholique, c'est comment financer les paroisses. Tout dépend à ce moment-là du seigneur. Et le seigneur peut être un catholique tout à fait zélé et n'avoir aucune envie de payer. Vous verrez ça très souvent en Bohême. Il est prêt à faire venir tel ordre religieux, à fonder un monastère où il se fera enterrer, mais payer, vous voyez, pour les paroisses, pas du tout partisan pour cela. Et il faudra que le pouvoir royal et l'archevêque de Prague mettent en place une caisse du sel, vous voyez, un peu l'équivalent de la gabelle, pour financer les paroisses. Mais la question ne sera réglée que très longtemps après, bien au-delà de la fin de notre programme. Et à ce moment-là, c'est à l'époque de l'empereur réformateur Joseph II, donc dans les années 1780, au moment où on va supprimer un certain nombre de maisons religieuses, voire d'ordres religieux entiers dans la monarchie Habsbourg, qu'on va récupérer les biens des ordres religieux, les différentes fondations, etc., pour créer une caisse destinée à financer les paroisses. Et c'est seulement à ce moment-là que le processus, vous voyez, de recatholicisation commencé dans les années 1620 atteint sa pleine ampleur quand vous pourrez avoir enfin un clergé nombreux et de qualité et présent dans le village. Car l'énorme problème, une fois qu'on a chassé, ce qui est le cas dans les années 1620 en Bohême, tous les pasteurs, prédicants, curés, utraquistes, etc. Mais qui on va mettre derrière ? Pendant parfois plus d'une génération, personne. Aussi, il y a bien un curé, mais si vous voulez, avec des paroisses absolument gigantesques. Une paroisse en Bohême n'a pas grand-chose à voir avec nos petites paroisses normandes, vous voyez, très proches les unes des autres. Là-bas, ce qu'on va appeler paroisse, ça va être un doyenné tout entier. Alors, inutile de vous dire que monsieur le curé, surtout si en plus on ne sent pas beaucoup d'affinité religieuse avec lui, c'est vraiment quelqu'un de lointain. Quelqu'un de lointain, quand on le voit, ça annonce plutôt des ennuis, où il va vous demander de payer quelque chose, etc. Bon. Il va falloir attendre très tard dans la deuxième moitié du XVIIe siècle pour que les paroisses puissent être pourvues. Et de gens qu'on connaît, de gens de qualité, de gens qui sont présents. Vous voyez, ce n'est pas une demi-douzaine de jésuites qu'on envoie faire une mission et puis qui repartent ensuite, vous voyez, plus ou moins longtemps après. Bon, ça ne marque pas en profondeur. L'encadrement réel des populations va être une affaire de très longue haleine. Et vous avez dans l'intervalle, évidemment, la survie de phases, disons, de post-protestantisme, c'est-à-dire de gens, une fois que le dernier qui a connu le culte d'avant les années 1620 est mort, il y a quand même une rupture. Mais en même temps, le culte familial dans des familles protestantes peut durer beaucoup plus longtemps. Avec des gens qui vont se trouver dans une sorte d'entre-deux mal défini, avec ce que j'appellerais des friches religieuses, que l'historiographie, pour le moment, n'a pas vraiment pris en compte dans le cas de la Bohême, mais qui nous aiderait à comprendre beaucoup de choses. Alors, à force, vous aurez peu à peu une imprégnation catholique. Ça demande beaucoup de temps, et dans certaines parties du royaume, le processus ira à son terme. Dans d'autres, ce ne sera jamais le cas, parce que vous avez pas loin des régions protestantes qui continuent, vous voyez, d'alimenter en Bible et en pasteurs clandestins, etc. Alors là, ça dépend vraiment, si vous voulez. La Bohème du Nord et de l'Est, plus proche de régions protestantes, la Saxe ou une partie de la Silésie, à l'arrivée, est beaucoup moins revenue au catholicisme que d'autres parties du pays, en particulier le centre et le sud. Là, après, mais pour le moment, on ne peut pas aller plus loin, il faudrait vraiment des monographies, vous voyez, des études très précises où on peut suivre une paroisse, une zone rurale dans la durée pour dire des choses vraiment précises qui sortent des généralités dans lesquelles on est quand même trop souvent englué, surtout que c'est un enjeu, disons, historiographique extrêmement brûlant qui fait intervenir aussi la notion de sentiment national, et en Europe centrale, ce n'est pas des choses aujourd'hui encore qui sont de l'ordre du passé. Voilà.